Gérard Adam, c'est toujours un plaisir de vous rencontrer à l'occasion, soit de la publication d'un de vos livres, en général ce sont des romans, soit à l'occasion de la publication en tant qu'éditeur, cette fois-ci, de livres, récits, romans, recueils de poèmes dont vous assumez l'édition au sein de la maison que vous avez créée, MEO. Alors MEO, on va commencer par ça si vous voulez bien, s'appelait au départ Mode Est-Ouest et c'est devenu Monde Édition Ouverture. Alors, monde, édition, ouverture sont trois mots qui vous conviennent bien.
Oui, mais la petite histoire fait qu'on a choisi ce nouveau terme pour garder les initiales MEO, sous lesquelles on était déjà connu à l'époque de Mode Est-Ouest. Je fais une petite rectification, ce n'est pas moi qui ai fondé les éditions MEO, c'est une dame, une belge d'origine bosnienne, bosniaque même, qui s'appelle Spomenka Jumhur, et qui est la fondatrice de l'ASBL Mode Est-Ouest, qui n'avait pas du tout au départ vocation d'être une maison d'édition, mais qui a été fondée par elle pour venir en aide aux réfugiés d'ex-Yougoslavie durant la guerre du milieu des années 90, et particulièrement les Bosniaques, c'est-à-dire les musulmans de Bosnie, qui étaient réfugiés ici en Belgique. Or, donc, moi qui étais médecin casque bleu pendant ce conflit, après mon retour, par tout un curieux détour de circonstances qui va de Pierre Mertens à bosniaque Esad Boutchouk, peu importe, elle a pris contact avec moi pour me demander éventuellement de l'aider, ce que j'ai fait dans la mesure de mes moyens. Je travaillais à plein temps à l'époque, mais bon, j'ai donné une petite aide comme je le pouvais. Et une de nos activités était de regrouper ces réfugiés, de les mettre en contact avec des Belges autour d'activités culturelles, soit des lectures de poèmes. Il y avait parmi eux des poètes qui étaient traduits par Spomenka Jumhur et quelques autres. Je ne travaillais pas encore aux traductions à l'époque. Soit des musiciens, des peintres, expositions de peinture. Après la guerre, tous ces gens sont rentrés chez eux. Et puis, ils nous ont dit qu'ils auraient été intéressés par avoir de la littérature belge. Et donc les éditions Mode Est-Ouest, on ne s'appelait pas encore MEO à l'époque, Mode Est-Ouest se sont fondées pour traduire les auteurs belges en serbo-croate, version bosnienne, puisque c'est une langue à géométrie variable.
Et donc là, on est en 95, à la fin de la guerre, c'est ça?
On est un petit peu plus tard, 96, 97, je dirais, quelque chose comme ça. Je n'ai plus les dates exactement en tête. Et donc, on a obtenu un petit budget de la promotion des lettres de Jean-Luc Outers à l'époque. Et on a commencé à traduire et à publier là-bas un à deux livres par an. Et on a fait un catalogue, à faire pas lire d'envie pas mal d'éditeurs, puisqu'on avait à ce catalogue Pierre Mertens, Jean-Philippe Toussaint, Amélie Nothomb, François Emmanuel, Eugène Savitskaya, etc. C'était pas de la petite bière. Et puis, il est arrivé à ce moment-là quelque chose d'assez étonnant, c'est qu'il y avait, parmi ceux qui étaient restés en Belgique, pour des raisons entre autres politiques, c'est qu'il était toujours persona non grata là-bas en Bosnie, il y avait un poète, Tomislav Dretar, qui était proche de l'association, je dirais militant, entre guillemets, de l'association, et qui est tombé en arrêt devant la poésie de Monique Tomasetti, qui était aussi proche de l'association, et qui s'est mis vraiment à la traduire. Et donc, les poèmes de Monique Tomasetti ont été inclus dans cette publication de Mode Est-Ouest et ont eu, assez curieusement, un retentissement auquel on ne s'attendait pas là-bas en Bosnie. Parce que c'était une forme de poésie qu'ils ne connaissaient pas, poésie qui est très liée à la spiritualité, mais totalement indépendante des religions, ce qui était difficilement concevable là-bas en Bosnie, où toute spiritualité est forcément liée à une des trois religions. Et pas mal de grands poètes sont vraiment intéressés. Nous sommes allés, Monique Tomasetti, Eugène Savitskaya et moi, avec Spomenka Jumhur, en 2001, lors de la présidence belge de l'Union européenne. Nous sommes allés pour les journées belges de Sarajevo, où là s'est passé un événement assez étonnant. C'est qu'on était présentés, et Monique Tomasetti était présentée par, je crois, le plus grand poète de Bosnie contemporain, Admiral Mahic. Et au moment où il a d'abord, au lieu de faire une présentation classique, il a lu un poème sur sa poésie, un très long poème sur sa poésie. Comme c'était un lecteur extraordinaire, ça avait un succès énorme. Et puis, il a fait parler Monique Tomasetti de sa conception de la poésie. Et au moment où elle parlait de la spiritualité dans sa poésie, le muezzin de la grande mosquée s'est mis à chanter. Ça a fait une espèce d'électrochoc dans la foule des poètes présents, parce que ça voulait dire que Dieu, peu importe que ce soit Allah ou un autre, que Dieu bénissait ce qu'elle était en train de dire.
Quelle mise en scène, hein ?
C'est extraordinaire. Alors, depuis lors, ils l'ont réinvité à une grande manifestation poétique, Journée poétique de Sarajevo. Enfin bon, on a à ce moment-là, donc on avait une maison d'édition qui avait un certain relatif prestige en Bosnie. Ça s'est arrêté parce que les crédits sont arrêtés, un clou chassant l'autre, il y avait d'autres projets que de traduire en serbo-croate. Et puis on a été mis en veilleuse, mais entre-temps, j'avais commencé avec Spomenka Jumhur et Tomislav Dretar à traduire des écrivains de là-bas en français dans l'espoir de les faire publier par des maisons d'édition existantes. On ne comptait pas à l'époque. Bon, puis ça, c'est un projet qui a foiré, personne n'en a voulu. Et donc on s'est dit qu'on allait maintenant créer les éditions MEO pour publier ces traductions. Voilà un peu l'histoire. Depuis lors, on s'est étendu. On publie également des auteurs belges. On a des projets de publier des auteurs français également, mais aussi des traductions d'autres chants que le serbo-croate. Et notamment, on va créer en 2012, très vraisemblablement, une collection de traductions d'auteurs portugais, enfin lusophones en général, qui sera dirigée par Daniel Simon.
Ah ouais. Très bien. Simon, qui est un auteur
et qui a, lui, une ASBL Traverse. Et il y aura donc une collection Traverse dans Méo qui sera dirigée par Daniel et orientée vers la traduction. Lui, il adore le Portugal, il y va chaque année, il tient des ateliers d'écriture là-bas, il connaît énormément d'écrivains. Et donc voilà,
c'est Daniel Simon est aussi très proche de la maison d'édition Couleur Livre, où il édite aussi. Il y aura des synergies là entre vous ?
Il y a des amitiés, mais pas de synergie avec Couleur Livre, où Daniel Simon dirige aussi une collection, la collection Jeu, collection des
récits de vie.
Récits de vie, c'est ça, voilà.
Alors, si vous voulez bien, Gérard Adam, on va peut-être venir maintenant à l'actualité plus immédiate de la maison d'édition Monde Édition Ouverture, enfin MEO Édition. Alors, peut-être que je voudrais commencer par votre dernier roman en date, Le Saint et l'autoroute. Alors, pour qu'on soit bien clair, je l'ai lu au moment de sa parution et on avait prévu de faire l'interview à ce moment-là. On l'a retardé. Ce qui veut dire que je ne l'ai pas relu d'ici là. Mais le souvenir que je gardais de cette histoire, c'est qu'elle me semblait assez atypique dans la production de Gérard Adam, qui me semblait-il se donnait plus de légèreté dans le choix du sujet et dans la manière de l'aborder.
Oui, tout à fait. Mais en fait, il y a une histoire à ce livre. Elle est déjà ancienne. Lorsque j'avais sorti mon deuxième recueil de nouvelles chez Luce Wilquin, qui s'appelait à l'époque Le Chemin de Sainte-Hélaire, j'avais été interviewé à la RTB par Anne-Marie Laffaire. Et Le Chemin de Sainte-Hélaire, c'était une histoire, dans un patelin imaginaire, d'une procession qui a lieu tous les 7 ans, et où on rejoue 7 épisodes de la vie d'une sainte, Sainte-Hélaire. Et bon, il y a tout en parallèle la vie de cette sainte, la vie de personnages qui jouent cela. Bon, peu importe. Mais elle m'avait posé à l'époque la question, comment avez-vous eu l'idée d'inventer comme ça une sainte imaginaire et de la mettre en scène? Et la réponse a jailli sans préméditation, c'est que je suis né effectivement dans un village qui s'honore d'avoir un saint patron qui n'a jamais existé. Vraisemblablement, en tout cas, Saint-Valère, ou Saint-Wallère plus exactement, qui, c'est curieux, il n'a jamais existé probablement, il n'a en tout cas jamais été canonisé, mais son culte est quand même reconnu par l'Église catholique pour une question de gros sous, tout simplement. Il y avait des processions, mes parents me racontaient dans leur enfance, des processions de plusieurs kilomètres de long, parce que ce saint qui a été trucidé d'un coup de rame sur la tête pour être allé sermonner un vicaire qui se méconduisait, le vicaire l'a tué, il n'était pas très content d'avoir été sermonné. Ce saint est prié pour les maux de tête, mais également pour une anecdote un peu, bon, donc, que je reprends dans ce livre d'ailleurs, pour les maladies des animaux. Et donc les gens venaient à cette procession faire bénir leurs animaux. Et ça m'est resté en tête. C'est vrai, je suis né dans un village où il y a un saint imaginaire. Mais un village, je me suis rendu compte par la suite, je n'étais plus allé depuis très très longtemps, et en y retournant, je me suis rendu compte d'une de ces belgitudes extraordinaires, qu'une autoroute menait à ce village et venait mourir, mais réellement mourir, en bordure du village. Cette autoroute, bon, on l'appelle nationale, mais c'est quatre bandes séparées, c'est une véritable autoroute, avec des entrées d'autoroute. Elle arrive en bordure du village, elle passe sous un pont, et elle en ressort sous une petite route ordinaire à deux bandes. C'est une de ces étrangetés. Elle aurait dû continuer ce que Philippe ville, elle n'a jamais été continuée. Et donc, j'avais un titre de livre tout trouvé, Le Saint et l'autoroute, que j'ai mis, je ne sais pas, une bonne dizaine d'années, c'est pas plus, 12, 13 ans avant de commencer à écrire. Ce livre, effectivement, est tout à fait différent du reste de mon œuvre. Il est beaucoup plus léger. Il faut dire que je sortais à ce moment-là de l'écriture d'un roman très, très lourd qui s'appelait Cotani. Un roman qui m'avait m'avait été vraiment très difficile d'écrire. J'avais mis du temps, j'avais recommanié, j'arrivais pas à trouver le ton, enfin, plusieurs tons, parce qu'il y avait plusieurs personnages, chacun ayant son ton. C'est aussi un roman extrêmement dramatique.
Et donc, et nous nous étions vus d'ailleurs à son propos. Les auditeurs peuvent encore écouter sur Espace Livre l'interview que vous m'aviez donnée à l'époque.
C'est ça, oui. Et donc, mon idée était de me mettre en scène en me disant, moi qui n'ai plus mis les pieds dans ce village depuis des décennies, j'y reviens et je découvre un village qui est à la fois complètement changé, mais où je retrouve mes repères, etc. Bon, c'était un peu bateau comme sujet, mais enfin, j'avais envie d'en faire peut-être même un roman un peu poétique. Et quand enfin je me suis mis à l'ordinateur, c'est tout autre, comme toujours, tout autre chose qui est sorti. Un personnage un peu loufoque, un représentant de commerce amoureux d'opérette qui aurait pu devenir un grand chanteur d'opéra s'il n'a pas eu un trac immense, mais qui chante à tue-tête dans sa voiture en vendant ses montres splash un peu partout. Et il découvre, donc il tombe en panne en bordure de ce village, et il découvre un village dans lequel je me suis repromené pendant une semaine pour un peu reprendre les atmosphères. Et voilà, il découvre un village, alors où j'invente un folklore tout à fait. J'ai changé tous les noms, y compris celui du village. Enfin, il trouve un folklore dont une partie peut se retrouver dans mon village natal.
Mais voilà, c'est donc bien un roman un peu plus léger au niveau de l'histoire, mais finalement c'est un roman dans lequel votre regard se promène encore sur une collectivité villageoise, on dirait.
Oui, même plus que cela, parce que très vite, enfin au départ, je voulais, bon, quand ce personnage a surgi, je voulais m'en tenir un faux roman régionaliste. Mais vers le tiers du village apparaît une disparition, un peu amusant. Me tombe dessus une disparition. Et donc, brusquement, un bon tiers du roman, il bascule en polar. Ce que je n'étais pas du tout préparé à écrire, parce que je n'ai jamais lu de polar de ma vie. J'ai lu un Simenon, un point, c'est tout. Aucun Agatha Christie, j'ai jamais rien lu comme polar de ma vie.
Il faut vous y mettre, alors.
J'ai pas le temps, je ne lis plus, d'ailleurs. Un problème aux yeux m'empêche de lire. Et donc, mon polar est sans doute le seul que je lis. Donc, je ne sais pas du tout ce qu'il vaut comme polar. Je n'en ai aucune idée. Les amateurs du genre apprécieront. Donc, un faux polar, faussement régionaliste. Voilà.
Alors, écoutez, ce que je propose maintenant, c'est qu'on revienne à l'éditeur, cette fois-ci. Alors, dans votre actualité, je pense, la récente, mais bon, je n'ai pas mis dans l'ordre chronologique, il y a le dernier roman de Michel Joiret, dont vous aviez déjà publié un essai, Lire Marcel Proust aujourd'hui, un essai qui a été salué par Pierre Mertens, d'ailleurs.
Plutôt qu'essai, ce serait plutôt un ouvrage didactique. C'est un ouvrage destiné aux enseignants qui voudraient encore parler de Proust, il paraît que ça existe, et ça devrait exister.
Il paraissait, je voulais dire, un ouvrage qui n'est pas de la fiction.
Ce n'est pas du tout de la fiction, mais donc effectivement, il donne d'éventuelles clés de décryptage de Proust pour les adolescents, pour les intéressés. Mais ici, on est dans un roman de fiction.
Donc, Madame Cléo, c'est un roman que vous venez de publier donc, chez ME.
Et ce roman a aussi une très longue histoire, plus longue encore que Le Saint et l'autoroute, en ce sens que Michel Joiret, qui publie depuis, à mon avis, une petite quarantaine d'années maintenant, avait écrit ce livre, ce roman, en même temps que son premier roman. Il s'appelait Leïla. Mais il avait donné Leïla à Jacques-Antoine, qu'il avait publié. Et Jacques Antoine, après, il lui a remis Madame Cléou, lui, et Jacques Antoine lui a dit, écoute, il y a, non pas trop de ressemblance, mais une atmosphère qui est trop proche. Tu m'aurais donné Madame Cléou, je l'aurais publié plutôt que Leïla, mais ici, je ne peux plus le publier. Et donc, Michel Jouaret a remis ce roman dans ses tiroirs, l'a remanié un nombre considérable de fois, au point qu'un jour, il me parle de ce truc qui existe et où il ne sait plus du tout où il en est, mais je dis, mais montre-le-moi. Il me le montre, je me dis, effectivement, il y a pas mal de vis, de boulons à resserrer là-dedans, parce que, vu les remaniements, à un moment donné, tu as perdu le fil. Mais remanie ça, en refaisant un tout cohérent, éventuellement, voilà quelques pistes auxquelles tu peux réfléchir, ce qu'il a fait, et voilà, un roman de jeunesse devenu un roman de grande maturité dans nos bons écrivains belges.
Alors faites-nous, Jarindan, le pitch comme éditeur, puisque celui-ci, à nouveau, je ne l'ai pas lu, donc on était bien d'accord que j'allais vous interviewer en tant qu'éditeur sur des romans que je n'ai pas encore eu le temps de lire.
Alors, c'est un roman qui a beaucoup gardé de l'esthétique du nouveau roman. En ce sens qu'il y a un flou dans l'histoire, dans la chronologie, dans le personnage. Il n'y a pas de grande description psychologique actuelle du personnage. Mais il y a un homme qui est quitté par sa femme, qui, c'est la deuxième fois que ça lui arrive, complètement perdu, prend ses clics et ses claques, les met dans sa voiture, démarre, s'arrête en larmes quelques centaines de mètres plus loin, et dans son désarroi lui apparaît le visage d'une dame qui a marqué son enfance, qu'il avait plus ou moins oublié, Madame Cléou, une amie, si pas plus, on n'en sait trop rien, de son père, haute en couleur, esthéticienne vraisemblablement, et qui, à de très nombreuses reprises, est intervenu dans l'évolution psychologique du jeune narrateur. Et qui, là, vient à son secours. Et donc, il repasse toute sa vie sous les yeux de cette Madame Cléou. Et bon, il y a là tout un retour à l'enfance pendant la guerre, mais aussi à... Il y a beaucoup, non pas d'autobiographie, mais d'atmosphère autobiographique, puisque... Le héros du livre, le personnage principal du livre, a été enseignant en Tunisie, comme Michel Jouaret. Une partie se passe en Tunisie. Il y a, là ce n'est pas du tout autobiographique, un peut-être meurtre, mais est-ce qu'il a réellement été commis contre celui qui lui a piqué, sa première femme, ou est-ce un fantasme qu'il a eu parce qu'il a eu une période pratiquement de folie, où il a été même interné.